Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippiques sur internet et mobile.
Bonjour, je ne suis pas Dominique Cordier, je suis Pascal Raymond Lamy. Je suis ravie de vous accompagner pour cette émission un peu spéciale de Radio Balance. Comme chaque semaine, dans le très beau cadre du Cardinal 5 Place de la Porte de Saint-Cloud, dans le 16e à Paris. Mais aujourd'hui, rien qu'avec des femmes autour de la table et au téléphone pour débattre de l'actu et pour vous donner vos chocos du week-end. Côté prono, on aura les meilleurs avec nous pour le galop. Sophie Clément qui est avec nous par téléphone pour une belle réunion d'obstacles samedi à Auteuil, dimanche à Pau avec le Grand Cross également. Et puis il y a du plat à Compiègne également dimanche. Comment ça va Sophie ?
Ça va bien, merci, merci beaucoup et bonjour à toutes.
Voilà, ravi de vous accueillir à l'occasion de cette journée, hein, journée donc des droits internationaux des femmes. Ça vous parle ce thème ?
Ah oui, bah effectivement, c'est vraiment vraiment et toujours d'actualité, même si on est en 2024. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y en a eu dans le milieu des courses. Mais il y a encore des choses à faire. Les femmes sont toujours bel et bien présentes. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être là, faut faire sa place, peut-être un petit peu plus que les hommes, voilà, jouer des coudes. Et pas que sur la piste, hein. D'ailleurs, même dans notre métier aussi, c'est pas toujours évident.
On en reparlera tout à l'heure. Merci d'être avec nous en tout cas pour cette nouvelle émission de Radio Balance. On va parler de trot avec Christine Haudegaard, avec bien sûr une belle réunion, très belle réunion, dimanche, Cannes-sur-Mer, le grand critérium de vitesse, et avec un petit air de Norvège aussi pour vous.
Oui, bonjour Pascal. Oui, ça va être une superbe journée et évidemment, en tant que Scandinave, on regarde ça avec très grand intérêt. Tous les directeurs des hippodromes suédois seront sur place. On pense déjà à l'Elitlopp fin mai.
Évidemment. Alors, du 100% féminin, je vous le disais, dans Radio Balance, autour de cette table également, donc à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. C'est comme les Restos du Cœur, on aimerait bien que ça s'arrête un jour, mais en attendant, il y a encore du travail. L'actualité nous le montre tous les jours, malheureusement. Même si, dans les courses hippiques, la situation est particulière. Les femmes y sont installées depuis longtemps, sans être, loin s'en faut, majoritaires, mais au fil des années, elles ont gagné du terrain. Ça a commencé en 61 avec Jeannine Lefebvre, qui gagnait à Cannes-sur-Mer la première course officielle PMU-PMH, qui était ouverte aux femmes, aux cavalières. Une course où débutait d'ailleurs celle qu'on a appelée la cavalière du siècle dernier, parce que celle de ce siècle, on l'a avec nous, Micheline Lurçon. Après 2022, évidemment, Marie Vélon, 23 ans, qui entre dans l'histoire en devenant la première française à remporter une course de groupe 1. Et puis, Bayac. Quasiment moins de 15 jours, fin février, Marie Néon qui remporte l'International Jockey Challenge à Riyad. Ça, c'était tout à fait magique. Donc, un thème qui, évidemment, va, je l'espère, nous faire une belle émission. On va essayer de défricher, de reparler de ce terrain de la féminisation dans les courses. Et puis, pour en parler justement, elle a fait sa place depuis longtemps chez les amateurs, où elle a brillé dans les trois disciplines, obstacle, plat et trot. Toujours driver, elle est aussi, depuis l'an dernier, permis d'entraîner. Elle est un témoin et une actrice de la féminisation des courses. Bonjour Barbara Guéné, je suis ravie de vous accueillir.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Comment ça va Barbara ?
Ça va extra, super.
Vous, ça vous parle, cette journée ? Alors, on dit journée des femmes, mais journée des droits des femmes. C'est vrai que vous avez traversé quand même, hein, depuis des années, l'histoire des courses et l'histoire de la féminisation des courses. En quoi c'est quelque chose qui vous touche ?
J'ai vu évoluer un petit peu les femmes dans les courses et je trouve que ça a vraiment évolué dans le bon sens, notamment grâce à l'arrivée de la décharge pour les femmes. Ça a vraiment boosté un petit peu leur carrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, il y a encore un peu de progrès à faire au niveau des modes de garde et tout ça, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes femmes dans les écuries, mais passé 30-35 ans, on peut un peu plus les compter sur le bout des doigts. Donc c'est vrai que souvent, avec la maternité, elles arrêtent. Et c'est bien dommage.
Il y a beaucoup de choses de faites. On parlera justement des modes de garde parce qu'on a la chance d'avoir avec nous également aujourd'hui donc Élise David qui est responsable de l'emploi à la FASEC. Job très important, interlocutrice privilégiée dans les centres de formation à FASEC. Bonjour Élise, comment allez-vous ?
Eh bien parfaitement, cette journée où on met à l'honneur les femmes. C'est effectivement un sujet qui touche beaucoup et puis j'ai aussi une petite information, c'est qu'en 50 ans, notre secteur, c'est celui qui a connu le plus fort taux de féminisation et tout secteur confondu, même dans des activités qui sont historiquement très masculines.
Plus dans le plat ou plus dans le galop, cette augmentation? Parce qu'on va parler, on va dire tout de suite le chiffre, hein, combien de femmes dans les centres de formation à FASEC cette année?
Alors si on parle dans les centres de formation, on est à 73% de femmes, enfin de jeunes filles apprenantes. On a particulièrement plus de jeunes femmes dans la discipline du galop, on le note. Et puis c'est une évolution puisque l'année dernière on était à 71%.
Voilà, c'est en évolution constante hein, depuis de nombreuses années. Et un peu plus dans le galop donc que dans le trot. On y reviendra tout à l'heure. Mais vous et la FASEC et vous dans votre domaine, il y a eu obligatoirement une adaptation à cette situation. Et Barbara Guéné parlait donc de la garde des enfants notamment hein, pour s'en occuper. Ben, ça, ça a été mis en place.
Tout à fait. Les situations. Alors ça concerne les femmes et ça concerne aussi les hommes puisqu'aujourd'hui. Les papas aussi hein, sont amenés à avoir des difficultés de mode de garde. On sait très bien que c'est des freins périphériques à l'emploi. On a besoin de trouver des solutions de garde pour ses enfants. C'est aussi le logement. Mais ce qui peut être mis en avant, notamment pour servir la cause des femmes qui sont soumises à des horaires atypiques, et on le sait dans les courses, c'est qu'on a mis en place des modes de garde dans différents centres d'entraînement, là où potentiellement on avait le plus de salariés d'écurie course. Et comme elles sont 40,3% de femmes à exercer dans nos métiers, il fallait y répondre, il fallait trouver des solutions. Et ces solutions de mode de garde, elles sont adaptées totalement à leurs horaires. Donc on est tout à fait en capacité de recevoir des enfants dès 6h du matin. Et ça permet effectivement de pérenniser les postes et puis de maintenir durablement les femmes dans leur emploi.
On va en reparler tout à l'heure, hein, beaucoup plus en détail. Merci Élise en tout cas pour ces précisions. Déjà, je vais saluer quand même le seul garçon autorisé dans cette émission. Il est à la technique, mais pas que. Expression très utilisée maintenant, mais pas que. C'est Samy Boisa. Salut Samy.
Salut Pascal.
On compte sur vous hein, pour amener votre point de vue masculin à la fois dans l'émission et puis dans les pronos aussi. N'hésitez pas surtout. En tout cas, tout va bien.
Oui, tout va bien, tout va bien. Dominique n'a pas trouvé ne connaît pas de réalisatrice, peut-être, pour aujourd'hui. Donc, c'est moi qui est là pour cette super émission.
Mais on est ravis de vous avoir avec nous, en tout cas. Et c'est sur vous qu'on tapera, donc, tout au long de l'émission, bien évidemment, en cette journée des droits des femmes. Voilà, on va tout de suite, sans plus attendre, dire un petit mot de l'actu dans la semaine. Peut-être on va commencer juste... de dire un mot sur le trot avec quand même le prix de sélection. Hein, c'était dimanche, un week-end très humide sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais en tout cas très belle course. Dites-nous-en un petit mot, Christine.
C'était vraiment une super course. On s'est un peu inquiété dans le dernier tournant, mais Ida Gaultier l'a fait. Et quelle manière! Un cheval plus qu'impressionnant. Il est vraiment d'actualité puisque Thierry Duval-Destin a très envie de venir en Suède courir l'Elite Club et il a aussi une femme formidable qui s'occupe de lui. Elle est norvégienne, elle s'appelle Suzanne Oma.
Très proche, hein, effectivement, c'est son bébé. Hein.
Ah oui, oui, absolument. Elle passe tout son temps avec lui. Je pense que c'est quelqu'un dont on entendra beaucoup parler à l'avenir. Elle va certainement accompagner Ida Gaultier tout au long de sa carrière, mais ça sera certainement une formidable entraîneur par la suite.
Et donc c'est formidable pour Solvala aussi.
Ah oui, oui, c'est Anders Malmelot, le directeur de Solvala, ne pouvait pas rêver mieux. J'ai eu la chance de les aider à être en contact, Thierry Duval-Destin et l'hippodrome de Solvala, et quand je l'ai appelé pour lui dire que bon, je pense que ça va le faire, il hurlait.
J'imagine très très bien. Barbara, ça vous a inspiré? C'est vrai que c'était une très très belle course et Idaho, c'était magique. Hein.
C'est vrai que ce cheval-là, il sort vraiment de l'ordinaire et quand on aime les courses, on aime les cracks et c'est vraiment un régal pour tout le monde en fait.
Exactement. Puis voilà, il y a eu cette course qui était quand même très très particulière. Sa victoire, il y a le clan du Val d'Estaing aussi. Enfin, c'est vrai que ça mettait un sel, un piment quand même particulier.
Absolument. Et il y a vraiment tout. Le cheval va être de plus en plus impressionnant. La saison de monte a commencé. Physiquement, il était encore presque plus beau que les courses précédentes. Et Clément du Val d'Estaing a vraiment maintenant un sang-froid incroyable. Ouais. Je pense que c'est le seul qui n'était pas inquiet dans le dernier tournant.
Voilà, il avait raison.
Ah oui, il a raison. Ce qui était, moi, sur le coup, je me suis dit, Solvala, ça va aller tout seul quand il est aussi calme et aussi cool.
Voilà, ça nous... Rappelez-nous les dates de Solvala.
Ah, c'est le tout dernier week-end de mai.
Voilà, donc on a encore un petit peu de temps. On va en reparler, bien évidemment, et on en reparlera dans Radio Balance. Élise ?
Je me permets une petite parenthèse, mais pour l'histoire, Idée Haute du Tillard est quand même élevée par une femme, Madame Chaunion.
C'est vrai.
Ça mérite d'être souligné en ce jour.
Voilà, c'est une belle intervention, bravo, on est complètement dans le thème. On reste dans l'actu quand même, on reste dans le trot. Alors ça, c'était pas plus tard qu'hier. Benjamin Rochard, qui fait quand même un truc de dingue, c'était son anniversaire. 28 ans, c'est ça Barbara ?
Oui, c'est ça, 28 ans.
Et donc hier ?
7 courses, 3 à Caen, 4 à Laval. Donc c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire.
Sur deux hippodromes,
Sur deux hippodromes, Mathieu Abrivard l'a fait cet été à Royan. Mais c'est vrai que c'est, enfin, quand on y pense, c'est complètement fou d'arriver à faire ça. C'est vraiment un réel exploit.
Il s'était bien préparé. Peut-être qu'il se disait, tiens, c'est mon cadeau d'anniversaire. Non, mais en tout cas, blague à part, c'est juste exceptionnel. Et c'est vrai qu'il fait une très belle saison.
Ouais, c'est vrai que c'est vraiment il fait partie de la jeune génération vraiment en devenir. Hein, c'est beau, vraiment, chapeau à lui.
Un petit mot quand même de galop. C'est vrai qu'on était plus dans une actu de trot. On l'est encore. On va évidemment de plus en plus rentrer dans le programme du galop. Et c'est vrai qu'on avait la réouverture de l'hippodrome de Saint-Cloud. Et on avait de belles épreuves hier déjà sur cet hippodrome avec la rentrée, des rentrées très très attendues. On a vu avec le prix Altipan, Marabaï Hassanafi qui... s'est imposé dans la sixième course du programme. C'était une épreuve attendue et puis de beaux champions qui ont fait leur retour. Samy, ça vous a inspiré Saint-Cloud hier ?
Oui, mais ça fait du bien de retrouver du gazon déjà, parce qu'on a un peu trop de PSF pendant l'hiver, un peu trop
c'est
de
vrai, sable. Beaucoup trop.
Et oui, des très bons chevaux avec Marabaï Hassanafi qui est un vainqueur de groupe 1 qui a très bien gagné hier, Top Gear qui a très bien couru. Et on a vu aussi des bons jeunes, des inédits de 3 ans et aussi inédites avec Jérôme Régnier par exemple. Donc voilà, ça lance, on va dire, la saison de galop.
C'est vrai que dans les belles courses, Fun with Flags qui s'impose dans le prix Rose de Mai. Altipan, on l'a dit, Marabaï Hassanafi qui sont les vainqueurs de cette épreuve. On a vu une belle course également d'un concurrent qui n'était pas forcément le plus en vue, Sabrosso, qui gagne de bout en bout dans le potager du Dauphin. La Mandala dans le Douchka, c'était la troisième course du programme.
Et Henri Alexpental a l'air d'avoir une belle génération de 3 ans pour cette année.
Exactement, c'est vrai qu'il y a pas mal de 3 ans. On a vu également chez Victoria Head.
Qui a très bien gagné hier. Oui.
Exactement, qui a très bien gagné. Et c'est vrai que c'est plutôt encourageant d'avoir des bons 3 ans comme ça qui sortent en début de saison. Parce qu'on a des moments où c'est un peu plus creux avec les jeunes sujets. Et là, visiblement, ça a l'air plutôt bien parti pour cette saison. Donc, on attend avec impatience les grandes, belles courses et les préparatoires. Et puis, il y a une belle réunion qui s'est disputée également sur l'hippodrome de Chantilly. On en reparlera la semaine prochaine. Allez, sans plus attendre, dans Radio Balance, une autre invitée, elle aussi de ce numéro spécial, une invitée incontournable tant elle a apporté, même si elle s'en défend, à la féminisation des courses hippiques en France. Première femme entraîneur à rivaliser avec les hommes, avec pas moins de 126 groupes 1 et 3 arcs de triomphe. Bonjour Christiane Head, bonjour Cricket Head.
Bonjour.
Je peux vous appeler Cricket ?
Oui, bien sûr, tout le monde m'appelle Cricket. Et je bon. Reste toujours plus facilement à ce nom-là qu'à l'autre.
On a envie de vous demander, comment allez-vous, Cricket ?
Mais je vais bien, comme quelqu'un qui est rentier.
Voilà, mais qui profite j'imagine,
de tout.
Voilà, de plein de choses, parce que vous devez vous lever un peu moins tôt qu'avant, non ?
Oui, enfin ça, non, parce que j'ai tellement l'habitude, je crois que ma montre biologique n'a pas encore changé d'heure.
Est-ce que vous avez le temps d'avoir un regard encore sur les courses ou est-ce que voilà, vous suivez ça de loin? Quel est votre rapport avec les courses aujourd'hui?
Alors non, je suis ça de loin parce que j'habite pas tout près. Quand je suis au Bahamas ou si je suis sur mon bateau en train de naviguer, je suis pas tout près. Mais moi, j'ai gardé des chevaux, donc j'ai des poulinières et des chevaux de course. J'ai plusieurs entraîneurs et puis je regarde bien sûr mes neveux, mon neveu, ma nièce, les chevaux de mes frères et sœurs. Enfin non, je suis toujours très intéressée par tout ça.
C'est vrai que dans la famille, il y a de quoi avoir de l'actu très régulièrement. On a parlé de Victoria qui a eu une très belle journée hier, effectivement, à Saint-Cloud. Ouais. Et donc voilà, ça c'est aussi le clan Aide qui, depuis... Vous étiez la quatrième génération d'entraîneurs, je crois, vous, personnellement.
Oui, moi, personnellement, oui. Et donc, eux, c'est la cinquième génération.
Exactement, et qui perdure aujourd'hui. Sinon, vous avez gardé d'autres obligations, je dirais, des engagements un petit peu dans la filière, ou est-ce que, par contre, vous n'avez plus d'engagement dans différents domaines des courses?
Des engagements dans différents domaines. J'ai monté avec des amis une association qui s'appelle le CIF. Alors le CIF, on essaye de faire connaître notre métier à des gens assez haut placés, donc aux sénateurs et voilà, des gens qui viennent jamais aux courses et que j'invite de temps en temps.
À destination des politiques là, donc un peu.
Pour leur expliquer ce qui se passe et comment ça se passe, comme ils votent nos lois, je suis intéressée.
Bien évidemment, ce sont des gens qu'il faut intéresser pour faire avancer les choses. On a aujourd'hui, Cricket, 60 ans de recul depuis le début de la féminisation des courses. Je parlais tout à l'heure et en préambule de 1961 avec cette première course PMH-PMU sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, là où avait débuté Micheline Lorson, qui fait partie de l'histoire des courses comme vous. À votre avis, quels ont été les grands tournants de la féminisation des courses? Quelles décisions clés, à votre avis, sont intervenues et qui ont vraiment modifié la face des choses?
C'est l'installation de Myriam Bollack et de moi-même. Donc ça, c'était dans les années 77-18, puisqu'on a demandé notre licence à peu près en même temps. Elle l'a peut-être demandé, je crois, un peu plus tôt que moi, à quelques mois de différence. Et c'est nous qui avons, toutes les deux, fait basculer, si vous voulez, le côté masculin chez le féminin. Alors, avec aucune arrière-pensée quand même. Hein. Mais voilà, on a ouvert une brèche, ça c'est certain. Et puis, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je faisais partie d'une famille importante dans les courses. Et j'ai commencé avec beaucoup de chevaux. Et puis bon, j'ai eu la chance d'avoir des très bons chevaux, donc ce qui aide énormément.
Ce qui vous a mené, c'était la passion des courses, vous, avec la tradition. Y avait quand même ce désir d'amener des femmes dans le milieu, ou est-ce que finalement c'est la passion et vous vous êtes dit, je suis une femme, ok, mais j'y vais quand même, même s'il y a eu des réticences quand vous avez pris votre licence?
Oui, c'est-à-dire, oui, il y avait des réticences parce que les commissaires, ils n'avaient pas l'habitude d'octroyer des licences aux femmes. Donc, logiquement, il y avait des réticences. Et puis moi, j'avais une connotation, je travaillais beaucoup avec mon père, puisque c'est lui qui m'a tout appris quand
Bien
même.
Sûr.
Et donc, il me voyait beaucoup avec lui. Et papa avait beaucoup de chevaux à l'époque. Donc, ils ont pensé que j'allais être un prête-nom. Et voilà, c'est tout. Il fallait faire son trou. Et moi, j'avais l'intention de devenir entraîneur. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit à mon père, je deviendrai un jour entraîneur. Et lui me disait, mais non, tu sais, les femmes, elles se marient avec des entraîneurs. Bon, moi, ça, à 6 ans, vous voyez le mariage que ça peut...
Oui.
Donc, c'était pas du tout mon idée, mais c'était pas non plus mon idée, si vous voulez, de faire un grand bas de combat et que les femmes deviennent l'égale de l'homme. Quand j'ai demandé ma licence, c'était pas du tout dans ce sens-là. Maintenant, je pense que les femmes ont beaucoup à faire. On n'a pas de raison de pas pouvoir entraîner, parce que l'entraînement, c'est pas du tout... On n'a pas besoin de force. Je dirais que pour certaines choses, l'homme a quand même plus de force que la femme, mais pas là. Au point de vue entraîneur, c'est ce que vous voyez, c'est vos yeux, c'est ce que vous ressentez.
Bien sûr.
Et puis c'est le cheval, on l'oublie beaucoup, mais c'est le cheval qui court.
évidemment, il y a moins l'aspect effectivement physique qui peut être évoqué à plusieurs reprises. Vous, contre quoi vous avez dû vous battre? Parce que vous avez quand même mené des combats. Je sais que vous avez dit que les combats que vous avez menés, c'était pour les courses en général, sans forcément une distinction, un distinguo entre les jockeys hommes ou les jockeys femmes. Mais vous avez dû quand même batailler, j'imagine, et le fait d'être une femme, même en vous appelant aide et en ayant effectivement une lignée derrière vous, ça n'a pas dû être simple.
Pas simple, non, parce que c'est jamais simple quand vous vous installez. Et puis, bon, c'était pas dit non plus que je puisse réussir comme je l'ai fait, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, avoir 126 groupins ou même un peu plus, parce qu'il vous en manque certains.
Ah.
Mais bon, c'est pas grave, hein, ça n'a aucune espèce d'importance. Je veux dire, c'est vrai que ce palmarès-là, aujourd'hui, moi, je suis la seule à l'avoir,
ouais.
Parce que quand même. J'ai commencé avec un matériel formidable. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et des gros propriétaires. Et j'ai entraîné pour des grosses maisons et des gros éleveurs. Et ça, ça vous aide énormément. Donc, il faut reconnaître les choses quand même. Hein. Et puis, je vous dis, j'ai bataillé, oui, parce que quand vous êtes une femme, et à l'époque où on s'est installé avec Myriam, on ne nous prenait peut-être pas tellement au sérieux. On pensait qu'on était peut-être mieux derrière nos fourneaux que sur
j'imagine un temps
d'entraînement et avoir des problèmes avec le personnel. Alors qu'on a jamais, moi, j'ai jamais rencontré aucun problème. Je vous dis tout de suite, je n'ai jamais, ni de la part de mes confrères, parce que bon, je les connaissais tous pour les avoir vus depuis très longtemps, ils me connaissaient très bien. J'étais la fille d'eux, ça c'est sûr. Mais bon, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, je pense que ça m'a aidé.
Donc plutôt un avantage, effectivement.
Oui, oui.
On a avec nous aujourd'hui Élise David, qui est responsable de l'emploi pour la FASEC et donc pour les établissements de formation. Ce pourcentage très important et qui amplifie chaque année de filles dans les AFASEC, quel est votre regard là-dessus? Est-ce qu'à un moment, ça va devenir un problème?
Un problème, oui et non. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est qu'au bout d'un moment, les femmes se marient, les femmes veulent faire des enfants, ce qui est tout à fait logique. Et donc, elles quittent le métier, c'est tout, plus jeune qu'un homme. Mais sinon, moi, au contraire, j'ai toujours défendu la FASEC en premier, parce que je pense que l'école est très importante, et l'école de la FASEC, c'est quelque chose de très important. Et à travers nos métiers, il faut les aider, il faut prendre des apprentis, il faut les former. C'est à nous, si vous voulez, entraîneurs, de former les gens. Hein. Donc, l'école, elle leur apprend à compter, à lire et à écrire. Le reste, la formation, c'est les entraîneurs qui la font, hein. Que ce soit une femme ou un homme. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont rentrées à l'école. Je vous dis, le seul inconvénient, si je vois un inconvénient au fait que les femmes rentrent à l'école, c'est ça. C'est qu'elles restent moins longtemps dans la profession parce que elles se marient parce qu'elles font des enfants et qu'il y a des moments de leur vie où elles font autre chose, tu vois. Mais elles peuvent être l'égale des hommes, d'ailleurs elles le montrent. Hein.
Bien évidemment.
Les apprentis, bon, même si on leur a donné un peu une décharge qui à mon avis, et je devrais peut-être pas le dire parce qu'elles vont pas aimer ça, mais vis-à-vis des garçons, c'est pas tout à fait normal que les filles aient autant de décharges quand elles sont apprenties. C'est un avantage pour l'entraîneur, hein. Pour nous, on peut profiter au contraire, et on en profite. Et c'est pour ça qu'on les fait monter aussi, parce que peut-être que si elles n'avaient pas été cette décharge, les entraîneurs auraient été réticents pour les faire monter. Là, ils ont pris l'avantage de la décharge. Mais les filles montent très, très bien. Hein. Il y a pléthore de filles qui montent extrêmement bien. Alors nous, on a commencé comme amateur. Moi, j'ai monté en cavalière comme amateur dans les années 67-8. J'ai dû monter 2 ans parce que j'étais lourde et je ne pouvais pas faire le poids. Donc ça s'est arrêté très vite. Micheline Lerson a été précurseur des femmes, si vous voulez, dans notre métier. Hein.
Oui,
elle
et puis dans...
Elle était extraordinaire. Moi, j'ai longtemps travaillé avec elle quand elle était cavalière. Et aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. On a des chevaux en commun. Je veux dire, c'est quelqu'un de très important dans le monde des courses.
12 cravaches d'or, je crois. Hein. Vraiment, enfin, Micheline, ça a été...
C'était beaucoup plus que moi, d'ailleurs.
Mais oui, non, c'est vrai que... C'est vrai que, voilà, avec Myriam... Micheline et vous, c'est un triumvirat qui a quand même apporté énormément aux courses. J'ai un bon
oui,
point.
Oui, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. On les cite pas parce que bon, on les cite pas. Mais il y en a beaucoup d'autres hein, qui ont aidé à que la brèche s'ouvre et puis la brèche s'est écartée et tout le monde s'est englouti. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, sur trois hommes qui demandent, enfin, il y a une femme tous les trois entraîneurs qui s'installent masculin. Donc, moi, je suis ravie hein, d'avoir permis et fait quelque chose de bien vis-à-vis de mes consoeurs, parce que bon, mais c'est la vie qui l'a voulu aussi. Hein.
Voilà, vous avez ouvert une brèche et ça ne devait pas être si simple. Alors, j'ai un bon point à vous donner, Cricket, parce que vous avez 6 chevaux qui sont déclarés actuellement sous vos couleurs. Parfaite parité, puisqu'il y a 2 entraîneurs femmes, Adélaïde Butka et Anastasia Vatel, 2 hommes, Mickaël Delzangle et Patrice Cottier. Mais alors, en revanche, carton rouge, j'ai pas vu de filles sur vos chevaux.
Vous n'avez pas vu de filles sur mes chevaux?
Ben non.
Elles ont monté déjà.
Mais dans ces derniers temps, j'ai pas vu.
J'ai gagné à Chantilly avec un cheval qui s'appelle Roc Blanc, que j'ai en association avec Micheline.
Ah, voilà.
Monté par Sophie Chouette.
Très. Mais c'était sous les couleurs de Micheline?
Alors oui, sous les couleurs de Micheline.
Ah ben voilà, enfin, celle-là,
moi,
je l'ai ratée.
Avec elle.
Donc, non, mais je.
On c'était... est à 50-50. Non,
c'était
non.
Une petite
moi,
plaisanterie.
Je mes entraîneurs aujourd'hui, que ce soit féminin ou masculin, ont le choix des cavaliers et des cavalières. Moi, je n'interfère pas, je n'entraîne plus, donc je les laisse faire.
Vous leur laissez le libre choix.
C'est un métier qui est très difficile, et donc ils mettent ce qu'ils veulent, mais je fais monter les femmes aussi, hein, j'ai pas de problème de ce côté-là.
Non, mais c'était une petite plaisanterie pour voilà, vous titiller
non, mais
un petit peu.
Mais ça me fait plaisir, quand j'ai gagné avec Roc Blanc, avec Micheline, mais sous les couleurs de Micheline, on est d'accord, j'étais ravie que ce soit Sophie, qui monte le cheval et
gagné.
Bon, même si elle est voilà, tout le monde était peut-être pas tout à fait d'accord dans notre choix, mais on a choisi que c'était elle qui la monte. Elle avait gagné avec lui et on était à la recherche d'un jockey. Alors on n'avait pas besoin d'aller chercher très loin. Et elle a très bien monté puisqu'elle a gagné la course. Donc il y a rien à dire.
Absolument. Bah écoutez, on salue. Myriam Bollac, et puis on salue également Micheline Lorson, qui aura sa course d'ailleurs à Compiègne, hein, dimanche
oui,
soir,
hein, oui, le prix Micheline Lorson. Elle le mérite. Hein,
elle le mérite, vraiment, elle, absolument.
Elle a vraiment, à une époque où c'était encore plus difficile. Nous, on avait déjà, toutes ces cavalières qui montaient, elles ont ouvert un peu une brèche aussi, donc c'était déjà un petit peu plus facile.
Effectivement, vous avez défrayé le chemin et on vous en remercie et on voilà, bon, on est toujours ravis de.
On a fait notre métier. Hein.
Voilà, d'avoir. Oui, mais le faire bien, c'est une chose aussi. Et puis vous êtes avec nous, vous allez revenir hein, en France très prochainement et vous serez alors le 12 mai, pas de poule d'essai pour vous.
Non, je vais pas. Chez les franciscaines, la poule d'essai.
Voilà, vous serez aux franciscaines.
On m'a demandé depuis très longtemps de faire ça et. J'ai accepté de le faire, donc je serai à Deauville, chez les franciscaines, prête à répondre à toutes les questions qu'on puisse me poser.
Voilà, ça se passera le 12 mai prochain, donc aux franciscaines, dans ce magnifique écrin des franciscaines à Deauville. C'est une conférence, rencontre hein, avec vous, Christianette, donc ça se passera à 16h. Et il suffit de s'inscrire sur le site pour pouvoir y participer. Et je pense qu'il y aura du monde pour... vous rencontrez. Merci beaucoup, Christiane Head, Cricket Head, d'avoir été avec nous dans Radio Balance et voilà, d'avoir apporté encore une fois, votre écho, votre pierre à cette journée donc, des droits des femmes. À très bientôt.
C'est très important. Merci et merci de m'y avoir invité.
Voilà, on va poursuivre, nous, ce débat ici et cette émission de Radio Balance, donc émission spéciale sur, dans cette journée, hein, donc des droits internationaux des femmes et sur la féminisation des courses. J'ai le plaisir donc d'accueillir Élise David, je vous le disais tout à l'heure, directrice de l'emploi à la FASEC. Alors, Élise, vous êtes une interlocutrice privilégiée entre les centres de formation à FASEC et les employeurs. Juste pour donner deux chiffres, en 2014, il y avait 689 jockeys professionnels, 114 femmes. En 2019, on avait 193 femmes sur 568 jockeys. Et cette année, 34,8% de femmes dans les courses et près de 80% dans les AFASEC. C'est un chiffre quand même qui est en augmentation exponentielle d'année en année. Vous êtes arrivé il y a 2 ans. Vous avez pris en route en fait ce phénomène. Mais j'imagine que pour ceux qui étaient là depuis des années, c'est quand même un sacré changement.
Ah oui, je suis arrivée à l'AFASEC. Excusez-moi.
On reprend.
Je suis arrivée à l'AFASEC il y a effectivement un petit peu moins de 2 ans. En revanche, j'ai vu évoluer le monde des courses depuis une vingtaine d'années même, puisque j'ai évolué toujours en faveur de l'emploi dans un autre univers. Et c'est potentiellement un métier effectivement qui a augmenté, enfin qui s'est féminisé de plus de 20%. Alors qu'on perd 4% de salariés sur l'année 2022. Donc oui, les femmes ont de plus en plus leur place. Elles sont 40,3% à travailler, à évoluer dans les écuries de course. Au trot, au galop.
Au trot et au galop. On a des chiffres un petit peu entre trot et galop. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans le trot, les femmes sont perçues un petit peu différemment. Barbara, on va voir un petit peu les chiffres pour le trot, mais vous, comment vous le percevez? Vous qui connaissez bien tous les domaines, et on reviendra avec vous bien évidemment tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus féminin le trot que le plat, par exemple?
Moi, j'ai l'impression sincèrement que c'est pareil. Là, je travaille à la FASEC de Grosbois et on a énormément de jeunes filles en classe. Hein. Les garçons se sentent bien seuls. Voilà, ils sont peut-être 2-3 par classe pour les plus jeunes. Un tout petit peu plus les plus âgés, les bac 3. Mais là, par exemple, les petites, les bac 1, ils sont 3 garçons sur une classe de 22.
C'est fou. Donc, oui. Du coup, on, c'est une situation qui est complètement retournée.
Complètement. C'est exactement ça. C'est complètement retourné.
Oui. Ces garçons, vous pouvez en parler. Enfin, est-ce qu'ils évoquent cette chose-là? Parce que j'imagine que quand on s'imagine une carrière, une vocation dans le monde des courses quand on est un garçon, on voit quand même un milieu un petit peu masculin et finalement ils se retrouvent dans des classes où on a l'impression d'être en psychologie, quoi, à la fac.
Bah, pour l'instant, c'est des petits coqs dans un poulailler. Eux, ils sont contents à leur âge. Mais après, c'est sûr, comme disait Cricket, après, passé 30 ans, il y a quand même moins de jeunes filles. Et c'est vrai qu'il y a quand même encore des garçons dans les écuries, heureusement. Mais là, pour l'instant, à l'école, oui, il y a essentiellement que des jeunes filles.
Élise, quand vous avez dans vos contacts directs avec les employeurs, les entreprises, comment ça se passe d'abord votre travail? On vous appelle pour vous dire j'ai besoin d'un cavalier entraînement, j'ai besoin d'un jockey. Comment ça se passe au quotidien pour vous?
Ben oui, ça fait partie des missions, hein, de rapprocher l'offre à la demande d'emploi. Évidemment, on est dans un contexte où c'est quand même assez délicat. Aujourd'hui, quand on dépose une offre dans les courses, quelle qu'elle soit, sur n'importe quelle plateforme, c'est 7 postulants qui sont sur 10, qui sont des femmes. Elles sont 60% d'entre elles à être recrutées, ce qui prouve quand même que voilà, elles ont leur place. Et c'est des offres, c'est 4 femmes sur 10 qui occupent un emploi dans les courses.
4 sur 10 qui ont un emploi dans les courses, enfin qui sont effectivement. Y a une demande particulière de la part des employeurs? Est-ce qu'on vous dit moi je veux une fille ou je préfère un garçon? Et est-ce que ça intervient dans la discussion que vous avez avec eux?
Alors il se peut sur certains métiers effectivement qu'on ait on aborde un peu le genre, notamment sur les métiers un peu parallèles d'agent d'écurie. Alors oui, je préciserai après, mais on parle aussi d'une nouvelle dénomination de métier, je profiterai de vous en parler. Mais des métiers plutôt au sol où effectivement on va nous demander on va nous demander plutôt des hommes parce que c'est des métiers un peu physiques où il y a des particularités. Après, les femmes, elles choisissent leur voie d'abord à 88% d'entre elles parce que c'est des par choix de métier de cœur, parce que d'abord une véritable amour pour les chevaux.
Une vocation.
C'est ça. Leur motivation principale, c'est quand même le travail en extérieur, le travail manuel.
Oui, c'est pas juste mettre des petits. On a quand même cette image un peu d'Épinal où, dans les centres équestres, par exemple, où c'est vrai que peuvent naître des vocations, on a beaucoup plus de filles et on sait que les garçons, au fur et à mesure, vont parfois vers d'autres sports, mais parfois arrête. Mais bon, c'est toujours avec le poney et un petit... parce qu'on lui fait ses tresses, etc. Là, on n'est pas dans ça.
Non, pas du tout. Là, je vous parle du marché du travail, bien effectivement. On a tendance à rentrer un peu dans les clichés où on se dit effectivement les jeunes hommes arrivent dans le métier parce qu'il y a la compétition, il y a tous ces enjeux-là, l'adrénaline, le sport qui vraiment les motivent. Les femmes n'ont pas oublié d'être compétitrices, on le voit bien aujourd'hui. Je pense qu'elles arrivent juste un petit peu plus tard sur ce marché-là. Enfin, en tout cas sur la compétition pure. Donc on va arriver, à mon avis, enfin moi je suis assez optimiste pour me dire qu'un jour on arrivera à égal et qu'on aura autant de femmes que d'hommes qui prendront part dans nos réunions de course.
Dans les réunions de course. Et puis Christine, comment ça se passe en Norvège? Est-ce que c'est un phénomène que l'on rencontre? On sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'employés, enfin de femmes qui sont dans le milieu des courses. Bon, c'est une autre échelle. Dans les pays nordiques et en Norvège particulièrement, comment ça se passe ?
On a, comme en France, dans les écoles des courses en Norvège et en Suède, depuis plusieurs années déjà, beaucoup plus de femmes. On en voit beaucoup dans les pelotons, autant drivées que montées. Également au galop et également beaucoup de femmes entraîneurs. Elles ont commencé un tout petit peu plus tard qu'en France à driver en course, par exemple.
Pourtant, on aurait pu penser le contraire, mais oui. Cocorico, alors finalement, oui, hein, oui, nous c'est 61, vous c'est quoi, 70?
Oui, c'est Liv Hasley qui a montré la voie. C'est une femme assez exceptionnelle qui a maintenant 82 ans. Elle a encore deux chevaux à l'entraînement. Cette année, elle a couru trois fois pour deux victoires. Donc, elle est encore très active en tant qu'entraîneur et elle a également été très active en tant que driver toute sa carrière. Les pays scandinaves sont un peu les champions d'Europe de la parité, je pense. Sont très féministes. Nous, on est arrivés... je suis arrivée en 98 avec ma famille en France. Ma mère entraîne et élève des chevaux. À cette époque-là, c'était pas comme c'est maintenant. Elle est arrivée déjà une femme en plus. Je sais pas. Je pense pas que ça a aidé d'être étrangère qui demandait sa licence. Ils ont trouvé ça un peu marrant. J'en ai encore parlé récemment et maintenant il y a vraiment,
bien sûr. Ouais. Élise David, donc. Cette féminisation et cette arrivée massive des filles. Alors, vous, votre parti, on l'a bien compris, c'est l'emploi. Mais en revanche, ça oblige, et on a effleuré un petit peu le sujet tout à l'heure, ça oblige à s'adapter parce que la FASEC d'il y a 30 ans, ou d'il y a 20 ans, ou d'il y a 10 ans, c'est plus le même FASEC aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé véritablement ? En quoi la FASEC a été obligée de s'adapter et d'adapter aux femmes ?
Il s'agissait de reconnaître les femmes aujourd'hui au vu du nombre à officiers au sein de nos écuries courses. On a profité de l'occasion de la refonte de la convention collective nationale qui s'imposait puisqu'il fallait effectivement trouver un accord de branche pour arriver... à représenter un maximum plus de 5000 salariés, ce que nous n'avions pas aujourd'hui, puisqu'on avait près de 4000 salariés officiant dans les écuries course au trot au galop. Donc on a réfléchi avec les syndicats d'entraîneurs de galop et de trot, à savoir vers quelle branche on pouvait évidemment se rattacher. Il a été question à un moment de se rapprocher des zoos animaliers. On trouvait qu'il y avait quand même pas mal de différences par rapport à notre univers.
Un petit peu.
Donc naturellement, on s'est rapproché des structures de sports équestres et de loisirs qui sont potentiellement 6000 établissements équestres en France et qui recrutent près de 16 000 personnes, ce qui a fait que nous avons pu rentrer, comme l'État nous le demandait, dans des volumes qui nous permettaient de ce rapprochement de branches dans la convention collective. Elle sera effective en juin. Et cette convention collective, elle nous permet aujourd'hui de proposer une grille salariale qui sera commune à celle du trot et du galop. C'est assez historique. Aujourd'hui, il y aura les mêmes conditions salariales pour un salarié du trot et du galop.
Vous êtes en train de dire qu'actuellement, ce n'est pas le cas ?
Actuellement, ça n'est pas le cas.
Alors, quelle est la différence ?
Aujourd'hui, il y a une grille distincte pour les salariés d'écurie de course au trot et ceux du galop. On a deux conventions collectives bien distinctes. Et l'enjeu, c'est de pouvoir les mutualiser pour tout simplement avoir aussi plus de visibilité, de lisibilité, d'être un peu plus attractif, puisqu'il y a aussi des évolutions qui sont évidemment positives pour les salariés et notamment pour les femmes, puisqu'il était absolument obligatoire de reconnaître ces femmes qui sont au quotidien dans les écuries de course. Et aujourd'hui, en journée porte ouverte à la FACEA, quand on reçoit des mamans et des jeunes femmes, puisqu'elles sont 73% dans nos écoles, et qu'on parle de possible évolution dans nos métiers et qu'on leur aborde le fait qu'elles pourront peut-être devenir premier garçon dans une écurie, ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Il y avait une totale inadéquation avec ce que ça représente. En fait, nous qui connaissons bien ce terme-là, on l'imagine bien, hein, ce que représente le métier de premier garçon et un titre, un statut de cadre avec tout ce que ça implique. En revanche, face à nos publics aujourd'hui, on est en total décalage. Et cette convention collective, c'était l'opportunité d'aller vers une dénomination de nos métiers qui était quand même très genrée. Il fallait nécessairement reconnaître les femmes en parlant d'eux aujourd'hui, pas d'un garçon de voyage, mais d'un responsable de voyage.
Voilà, donc ça fait les deux, garçon-fille.
On ne va plus parler d'un premier garçon, mais on parlera d'un manager d'écurie. C'est un titre quand même assez chouette. Et puis on n'oublie pas aussi tous ces métiers parallèles, ceux des courses, mais et qui touchent beaucoup de femmes, tous les personnels administratifs. Qui œuvrent au sein des écuries de course, on ne les reconnaissait pas aujourd'hui au sens de la convention collective. Il a été utile de leur ajouter trois niveaux pour ces personnels-là, personnel administratif jusqu'au responsable administratif, ce qui fait une certaine reconnaissance aussi de toutes celles qui œuvrent dans le quotidien administratif, dans l'ombre des écuries de course.
Est-ce que vous avez trouvé un nom pour les femmes jockeys ?
Eh ben, pour le moment, on va rester
ou les
sur
drivers,
le jockey. Je trouve que c'est assez.
Ou les entraîneurs. Parce qu'entraîneuse, on va éviter.
On évite entraîneuse.
Que jockey,
je pense que Barbara,
entraîneur.
Ça vous plaise. Et à personne, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est quand même. C'est pas un détail, parce qu'il n'y a pas de nom pour. On reste sur femme jockey ou femme entraîneur. Et c'est vrai qu'on n'a pas de nom. On n'a pas de mots.
C'est vrai. On ne va pas se cacher quand même qu'il y a un gap entre ce que le manager d'écurie passe dans le langage courant, parce qu'on est très attaché à ce terme-là, en fait, quand on le connaît bien. Il y a quand même
Une tradition.
Donc, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont passés par là pour changer un peu leur image. Notre problème d'attractivité dans les courses aujourd'hui, il est très lié à l'image. Donc, on se doit de changer véritablement. Et ça passe par des petites choses un peu rhétoriques comme ça, mais qui peuvent avoir des répercussions très fortes. Il y a, je fais l'allusion à la caissière qui est devenue hôtesse de caisse, à la femme de ménage qui est devenue technicienne de surface.
Mais là, on avait des noms féminins déjà.
C'était déjà
des emplois qui étaient bien...
Souffraient pas de genrisme comme les nôtres. Nous, on a double peine. Ouais.
Exactement. Beaucoup d'avancées quand même, mine de rien. C'est vrai que ce flux, cette arrivée massive dans ces dernières années, donc des femmes dans les courses, ça fait avancer socialement, ça fait avancer aussi. Et vous parliez d'aménagement également, de garde pour les enfants, de garderie pour les enfants. Aussi pour les jockeys, bien évidemment, c'est pas uniquement lié aux femmes, mais voilà, tout ça, c'est quand même des avancées qui sont importantes.
Évidemment, on va pas se cacher, il y a une différence entre les hommes et les femmes qui est absolument majeure, c'est que les femmes portent les enfants. Ça a quand même une grosse incidence sur leur parcours pro, notamment sur des métiers où assez exigeants physiquement. Mais mentalement, on voit bien que ça a aussi une influence sur les femmes, puisqu'on s'aperçoit que dès lors qu'elles mettent un enfant au monde, elles ont aussi une forme de responsabilité un petit peu plus forte, une notion du danger aussi un peu plus prononcée. Du coup, elles sont beaucoup plus sur la retenue, elles peuvent être plus se sentir responsables vis-à-vis de leur enfant. Et elles peuvent parfois prendre peur à cheval, tout simplement être un peu plus mesurées et prendre moins de risques, voire avoir des envies aussi de reconversion. Alors on sait que dans les courses, De façon générale, les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Donc elles arrivent plus facilement à se reconvertir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être des débouchés qui sont un peu limités dans le sens où elles ont quand même envie de rester dans le métier. Et c'est là où nous, on va aussi les accompagner sur la reconversion. Ce qu'elles disent généralement, elles ont des ambitions de rester dans l'univers des courses plutôt sur des métiers annexes aux courses, dans des postes administratifs, en lien avec les courses, dans la com. Voilà. Il y a des opportunités. En fait, on ne s'imagine pas, mais on a une diversité de métiers dans les courses qui doit être plus largement affichée.
La pérennité de carrière homme-femme dans les courses, chez les hommes, c'est quoi ? C'est à peu près 10 ans ?
Alors, malheureusement, on s'est plus penché sur les chiffres sur les femmes et il s'avère qu'elles ont 5 ans en moyenne d'activité durable dans nos métiers.
Donc ça, c'est aussi un paramètre qui est extrêmement important, c'est-à-dire pas forcément la même longévité pour les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure, peut-être parce qu'elles veulent des enfants, etc. Mais on en parlera avec Barbara Guéné, bien évidemment, mais c'est un paramètre qui est quand même super important de se dire j'embauche une cavalière d'entraînement dans mon écurie, je sais que potentiellement elle va peut-être rester moins longtemps, même s'il y a un gros turnover, on le sait, elle va peut-être rester potentiellement moins longtemps qu'un garçon. Voilà, donc des carrières a priori plus courtes pour les femmes. Sophie, vous vouliez intervenir pour poser une question à Élise ou peut-être enchérir sur ce qu'elle vient de dire ?
Oui, je pense que ça peut faire réagir sans doute toutes les femmes qui sont présentes aujourd'hui. C'est que je trouve que c'est plutôt une question sociétale. Je parle surtout pour les femmes qui désirent à un moment donné de devenir mère. Je trouve que encore aujourd'hui, en 2024, c'est à elles que leur incombe la responsabilité de la vie de famille. Et donc, c'est elles qui vont devoir s'adapter et adapter leur vie professionnelle à cette nouvelle vie, au fait qu'elle soit devenue mère, que voilà, il y a un petit bébé auquel il faut s'adapter beaucoup au début, être présente pour cet enfant qui ensuite va aller à l'école, etc. Avec des horaires donc qui ne correspondent pas à la vie qu'on a quand on travaille avec les chevaux. Et surtout, en fait, si ces femmes-là vivent en plus avec des hommes qui travaillent dans le milieu des courses. Et quand on regarde en fait les femmes qui ont, alors je vais parler des grands noms aussi bien au galop qu'au trot, qui ont réussi en fait, dont on a le plus parlé, qui ont le plus grand palmarès en obstacle. On pense à Nathalie de Souterre, qui n'a pas eu d'enfant. Voilà, ça a été peut-être son choix de vie ou pas, ou peut-être que ça, en tout cas, sa carrière a eu cette ampleur-là parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée la pauvre par les accidents, mais pas parce qu'elle a eu des enfants. Et Nathalie Henry, au trot, elle a fait une grande interruption de carrière au moment où elle a choisi en fait de devenir mère et d'élever ses enfants. Et à côté, elle avait son compagnon qui, lui, a continué en fait sa vie d'entraîneur et de driver. Donc je trouve que voilà, c'est sociétal aussi, hein. C'est pas que dans les courses, mais peut-être qu'un jour elle décide aussi d'arrêter ce métier passion parce que elles n'ont pas trop de choix, c'est pas elles font la priorité à leur vie de famille, ouais.
Voilà, une pression sociétale, une charge mentale qui doit être pas mal aussi quand on est en train de conjuguer un petit peu tout. Mais c'est vrai, voilà, c'est vrai que c'est important et ce sont des paramètres à la FASEC dont vous devez tenir compte effectivement et qui changent un petit peu la face des choses par rapport à des carrières de garçons. Alors Élise, pour conclure, quel est le plus gros enjeu finalement pour les prochaines années ? Je reprends. Élise, pour conclure, quel est l'enjeu qui va être d'importance dans les prochaines années face à cette féminisation dans les métiers du cheval ? À quoi il va falloir s'adapter à la FASEC notamment et dans votre métier par rapport à l'emploi ?
Eh bien, comme tous les secteurs pénuriques, on est effectivement en pleine transformation du marché du travail. C'est des moments où finalement, dans des contextes un peu de crise comme ça, où on se pose des questions, on se dit comment on peut faire évoluer les choses. Aujourd'hui, je pense que globalement, nos entraîneurs et nos employeurs de main-d'œuvre dans les courses ont pris conscience qu'il allait falloir changer, qu'il allait falloir évoluer. Aujourd'hui, l'entraînement tôt le matin, effectivement, même si on est dépendant aussi des amplitudes horaires, Voilà, je pense qu'il y a des adaptations à prendre. Même si le calendrier des courses est dense, exigeant, il y a de l'organisation du travail à mettre en place, il y a comment gérer les conflits, s'adapter aux nouvelles générations, comment faire en sorte d'être un meilleur manager. Ça, c'est un enjeu. Ça, c'est un enjeu qui nous attend, notamment pour s'adapter aux femmes, sur lequel la PASEC s'est penchée, notamment en proposant cette année plus 10% de formation au management. C'est de véritablement donner des outils aux employeurs pour que justement notre secteur se transforme et puisse pérenniser durablement les postes. C'est aussi de pouvoir mettre en place on s'est associé avec le label Écuresse, qui est plutôt éco-environnemental et bien-être équin. Et on a développé un volet social. Et là, l'enjeu, c'est de pouvoir aller auditer dans les écuries courses, voir avec les employeurs là où il y a des écarts sur la cohésion d'équipe, sur l'ambiance, l'intégration, des choses très basiques sur les risques au travail. Et ça favorisera la rétention de notre personnel. Ça, ce sera un enjeu majeur qui permettra aussi aux femmes de s'épanouir et de rester plus longtemps dans cet univers qui est assez magique.
Merci, Élise. Alors, dans cette émission, on a évoqué tout à l'heure la cavalière du siècle dernier, donc Micheline Leurson. On a la cavalière du siècle, certainement, parce que c'est Barbara Guéné qui est avec nous tout au long de ce Radio Balance. Lauréate quand même dans les trois disciplines, en trot, en plat, en obstacle, dans les rangs des amateurs, désormais est permis d'entraîner. Barbara, vous avez connu tous les milieux. Il y a un endroit en tant que femme où ça a été compliqué ?
J'ai connu tous les milieux. J'ai commencé dans les chevaux de selle comme monitrice.
Aussi comme monitrice,
voilà.
Tout à fait.
J'ai fait un peu de complet et puis après je me suis orientée vers les courses. Et non, moi je trouve que c'est vraiment un métier de passion. Après, c'est vrai que c'est quand même un métier d'homme, faut pas se voiler la face. Et je pense que oui, il y a de plus en plus de femmes, mais on a aussi besoin des hommes, parce que je pense notamment pour les débourrages, pour le pré-entraînement, avec certains poulains ou certains chevaux un peu chauds. Parfois, on a besoin un peu de fermeté, ça veut pas dire être dur, mais un peu de fermeté.
Fermeté ou force ?
Bah, ça va parfois un peu ensemble. Je veux dire, les femmes, on peut se faire un peu tourner autour, si on peut dire comme ça, par certains chevaux, justement, parce qu'on est un petit peu trop douce, un petit peu trop... même le parfum, les choses comme ça, qui peuvent un peu exciter les chevaux. Donc, je pense qu'on a des qualités, mais c'est vrai que le danger est que ça se féminise un petit peu trop. Et il faut quand même qu'on ait toujours des hommes de métier. Je pense que c'est vraiment important. Mais après, quand on est une femme, sincèrement, on trouve facilement sa place. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Voilà, si on est passionné, c'est plus facile à perdurer dans le métier. Mais c'est vrai qu'on essaye vraiment de dire aux jeunes filles qui entrent, voilà, il faut être conscient qu'on va travailler dans des conditions difficiles, déjà par la météo. Parce que c'est vrai que c'est pas le même métier entre le mois d'octobre et le mois de mars qu'après au printemps et en été. Voilà, mais c'est la passion qui nous tient et les filles souvent sont des passionnées. Donc moi je suis pas trop inquiète de ce côté-là, je suis plus inquiète sur le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de garçons.
Justement, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a abordé tout à l'heure et qui reste prégnant, parce que pour l'instant, ça a une domination masculine dans les écuries toujours, mais quand on voit l'effectif de la FASEC, ça risque de changer. Donc, en gros, finalement, il y a besoin à la fois des hommes et des femmes. Vous, qu'est-ce qui a généré, par exemple, vos changements d'activité ? J'ai lu que vous disiez, je suis venue dans ce métier, j'étais un garçon manqué, comme si voilà, c'était un ingrédient important pour faire carrière dans le milieu du cheval. Mais vous n'avez pas choisi la facilité, parce que l'obstacle, c'était quand même pas non plus très simple.
Non, c'est sûr, mais oui, j'ai certainement un tempérament un petit peu de garçon manqué.
Il faut du caractère.
Ouais, il faut du caractère. La compétition, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Et puis ensuite, les disciplines, ça a été un peu en fonction de la vie, comment elle a évolué. On va dire un peu ma vie sentimentale a fait que j'ai changé de discipline comme ça au gré du temps. Mais voilà, c'est vraiment les chevaux, en fait, le moteur numéro un. Et après, quelle que soit la discipline, voilà, quand on est passionné, sincèrement, tout est plus facile.
Élise, tout à l'heure, donc, évoquait cette question justement, peut-être à un certain niveau, quand on est maman ou à certains moments de la vie où on ne sait pas pourquoi, une forme de peur qui peut s'installer, en tout cas une maturité qui fait que on est plus précautionneux, on prend moins de risques. Est-ce que ça vous est arrivé ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, moi, je suis rentrée dans les courses, j'avais 22 ans. Et j'ai eu mon garçon, j'avais 25 ans et j'ai passé ma licence, j'avais 26 ans. Donc moi, j'ai tout fait à l'envers, en fait. Donc non, je ne suis pas du tout le bon exemple.
Mais c'est peut-être pas plus mal, finalement, parce que vous avez eu votre fils donc avant de faire carrière et vous aviez déjà un enfant. Il n'y a pas eu ce manque que peuvent avoir certaines femmes qui font le choix peut-être de ne pas avoir d'enfant pour rester dans la carrière.
Non, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est une vie un petit peu égoïste. Hein. Mon fils, il a été obligé, entre guillemets, de me suivre un petit peu partout sur les hippodromes. Mais aujourd'hui, il fait le métier. J'en suis ravie. Et puis, c'est un métier d'égoïste. Voilà, c'est vrai que ça faut le dire parce que c'est beaucoup de sacrifices au niveau de la famille. Moi, je sais que j'ai pas souvent vu ma sœur, mes parents, parce que je préférais aller monter le week-end au fin fond d'une province reculée. Mais je regrette rien.
C'est un peu le principe de toutes les passions, ça. Ça, c'est un peu le problème de toutes les passions.
Exactement.
Voilà, d'être. Il y a un moment, on est égoïste parce qu'on a envie de.
C'est des choix de vie.
Ce sont des choix de vie, voilà, qui peuvent être aussi des choix de vie professionnels. Enfin voilà, c'est un choix, nous prive aussi d'une certaine forme de liberté par rapport à d'autres choses.
Exactement. Mais encore une fois, je pense que vraiment, quand on est animé par la passion, sincèrement, c'est pas faire des sacrifices. Et moi, j'essaye à la FASEC, en tout cas, de leur donner le goût de l'effort aux jeunes. Et voilà, et vraiment qu'ils aient ce respect du cheval, cet amour du cheval, parce que je pense que c'est ça vraiment qui les fera tenir dans le métier.
Le goût de l'effort, féminin, masculin, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez inculquer aux deux ? Ou est-ce que on peut être plus facilement, comment dirais-je, s'adapter à l'effort quand on est un garçon ? Mais les filles, comment ça se passe à ce niveau-là ?
Je trouve que c'est des générations qui manquent un peu de fierté. Moi, souvent, je leur dis « ayez un peu de fierté ». Quand je les fais monter puis qu'ils me disent qu'ils ont mal aux jambes, moi, ça m'ennuie qu'ils me le disent parce que personnellement, je ne l'aurais jamais avoué. Voilà, donc j'essaye un petit peu qu'ils soient un petit peu plus durs au mal parce que la vie, ce n'est pas facile et qu'il faut s'accrocher. Mais filles, garçons, non, c'est pareil. Peut-être les garçons, un peu par fierté, ils vont moins le dire. Mais ça, c'est normal.
Est-ce que vous considérez toujours que c'est un métier d'homme ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, je pense que c'est quand même un métier d'homme parce que c'est un métier qui est avant tout quand même très physique. Pour une fille, c'est dur l'hiver. Enfin, je pense que c'est plus dur que pour un homme. On a froid tout le temps. Enfin, voilà, ça c'est physiologique. Une femme a plus froid qu'un homme. Et ça, c'est. Moi, je sais que c'est ce qui me fait souffrir, c'est l'hiver. Sincèrement, pour moi, c'est dur.
En Norvège, on dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements.
Ouais,
C'est pas faux. On est peut-être mieux équipés en Norvège.
Faudra que tu me donnes les vêtements parce que moi, je perds mes doigts de pied régulièrement.
Dans quel domaine, dans le galop ou dans le trot, est-ce que vous avez senti la poussée de la féminisation ? Je veux dire, c'est vrai que vous êtes une vraie référence parce que vous connaissez vraiment tous les domaines, mais dans quel domaine vous avez senti qu'il y avait vraiment un truc qui se passait ?
Je pense au galop avec l'arrivée de la décharge pour les femmes. Ça a vraiment été un vrai booster dans leur carrière. Y en a qui sont contre parce qu'elles disent qu'elles ne sont pas armes égales. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ça leur a vraiment donné un coup de pouce. Et ça choque personne qu'une femelle ait 2 kilos de moins qu'un mâle en course. Je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas avoir 2 kilos. On est moins forte, c'est comme ça, mais on est peut-être forte sur d'autres choses. Mais physiquement, oui, parfois, il y a quand même pour pousser un cheval à la lutte, il faut quand même un petit peu de force. Donc, tout le monde ne s'appelle pas Nathalie de Souterre. Nathalie, c'est une exception. Mais moi, je trouve vraiment que c'est un avantage. Et c'est vrai que, par exemple, on voit bien au trot les jeunes filles, dès qu'elles perdent la décharge, elles ne montent plus parce que comme elles sont légères, elles ont beaucoup de poids morts à porter. Et puis, elles passent aux oubliettes. Alors, à part pour aller monter l'été sur l'herbe parce que c'est du poids libre. Sinon, malheureusement, on les oublie. Et c'est bien dommage parce qu'il y en a beaucoup qui sont talentueuses et qui mériteraient de monter à Paris contre les pros.
Donc il y a quand même un souci, et c'est vrai que cette discrimination positive, c'est un vrai débat. Hein. Est-ce qu'on conserve les remises de poids? Est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'il faut, encourager les filles à devenir jockey? Ou est-ce qu'au contraire, tant pis, s'il n'y a pas véritablement une égalité entre les garçons et les filles, mais c'est un avantage pour elles? C'est super complexe en fait ce débat. Vous seriez pour le maintien de la remise de poids?
Ah oui, bien sûr. Oui, moi je suis pour le maintien. Oui, tout à fait. Parce que voilà, je pense que effectivement, physiquement, déjà on est plus légère. Donc je vois en obstacle, moi mon gros souci c'était de mettre du plomb. J'avais des brouettes de plomb et il y a des entraîneurs, ils veulent pas faire monter parce que vous avez trop de plomb et ils aiment pas le poids mort. Donc oui, moi je pense que d'avoir 1,5 kg ou 2, c'est pas discriminatoire du tout. Non, non. Encore une fois, entre les femelles et les mâles, ça choque personne, donc voilà.
Et alors dans le trot, vous êtes permis d'entraîner depuis peu, ça fait quoi, quelques mois
Depuis, oui, pas encore une année.
Quelques mois. Donc ça, c'est encore une nouvelle carrière, hein, finalement. Mais pourquoi on n'a pas de plus de professionnels dans le trot en tant que driver? Driveuse, on va pas dire driveuse quand même.
En tant qu'entraîneur
ou en tant que driver.
En tant que driver, bah disons que en amateur, il y a beaucoup de femmes, attelées, parce qu'en fait, en amateur, on a très peu de courses montées, on en a qu'une quinzaine, donc on est essentiellement un petit peloton féminin. Mais c'est vrai que attelée, il y a énormément de courses attelées, et donc il y a beaucoup de mixité dans les pelotons d'amateurs. Et c'est vrai que je ne saurais pas trop expliquer pourquoi atteler, il n'y a pas plus de femmes que ça. Sincèrement, je ne saurais pas l'expliquer.
Parce que c'est une vraie réalité. Hein.
Oui, c'est une vraie réalité. Mais en revanche, ce n'est pas le cas dans les amateurs. Vous regarderez, les pelotons, il y a quand même beaucoup de femmes.
C'est vrai, beaucoup de mixité,
oui,
tout
oui,
à
beaucoup
fait.
Beaucoup de mixité.
Comment on peut expliquer
parce
ça?
Parce que c'est des super cavalières.
Moi, je pense qu'au trot attelé, on arrive un peu plus comme en Suède ou aux États-Unis avec... une quinzaine de drivers qui se partagent toutes les grandes courses. On a beaucoup plus de variété que tous les autres pays du monde au trot en France, mais sur les grands hippodromes et dans les grandes courses, c'est toujours les mêmes drivers, et donc c'est encore plus difficile de se faire sa place.
Non mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas une femme qui arrive à se... On connaît des noms, bien évidemment, mais s'il y a quand même un vrai décalage entre la réalité et ce qui va être la réalité dans quelques années aux sorties d'AFASEC avec ce tel nombre de femmes, et la réalité dans un peloton à Vincennes dans les grandes courses. Difficile de répondre.
Excuse-moi, j'ai pas écouté.
Non, je disais que... on est toujours sur le même truc. On essaie de comprendre pourquoi il n'y a pas de femmes dans les pelotons par rapport aux 20 top drivers qui sont à Vincennes.
Et Pascal a noté que Barbara a remporté son premier quintet en tant qu'entraîneur.
Mais bien sûr.
À Vincennes, il n'y a pas longtemps.
J'allais y venir parce que j'avais noté donc avec bâton...
Guerrier-Castellet.
Avec, voilà, Guerrier. Et ça, pourquoi je ne l'ai pas là, ça? Attends, je l'ai là. Mais non, mais je l'ai. Voilà, Guerrier. Non, je l'ai là. Autant pour moi. Alors, donc, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer pourquoi on n'a pas plus de femmes dans les pelotons. En revanche, Barbara, donc, permis d'entraîner, ça va quand même plutôt bien parce qu'il y a un certain Guerrier Castellet. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de monde que vous faites. Mais lui, il aime travailler et ça se passe très bien avec lui puisque vous avez remporté un premier quintet récemment.
Ouais, super. C'est vrai que c'est une belle histoire. Mmh. J'avais acheté ce petit cheval aux ventes pour m'en faire un cheval d'amateur. Il était un peu trop compliqué au début pour moi. Et puis l'année dernière, il a commencé à devenir un peu plus pratique. J'ai pu gagner quelques courses en amateur avec lui. Et puis là, maintenant, il a trop de gains pour les amateurs. Donc il court contre les pros. Et oui, il m'a fait la joie de remporter un quintet il n'y a pas si longtemps que ça à Vincennes avec Mathieu Abrivard.
Exactement, voilà, j'allais dire Mathieu qui était aux commandes. Ça, c'est une nouvelle carrière pour vous?
Oui, c'est une nouvelle casquette.
Il y a la FASEC, en tout cas, c'est une casquette supplémentaire.
C'est une nouvelle casquette, mais c'est vrai que l'entraînement, c'est quelque chose aussi de passionnant. C'est même beaucoup plus stressant, on va dire, parce que quand on est sur un sulky, en fait, on ne pense plus au stress, on est dans notre course. Mais quand on est spectateur comme ça, on subit vraiment. Et pour les nerfs, c'est beaucoup plus dur.
Donc deux vies, enfin plein de vies, mais en tout cas actuellement Grosbois avec donc cette activité de, donc d'entraîneur, mais également donc la FASEC avec une maintenant hein, des vraies responsabilités importantes. La transmission, c'est quelque chose qui a été naturel chez vous ?
Bah oui, en fait, voilà, je reviens à mes premiers amours. Comme j'ai commencé comme monitrice d'équitation, là maintenant, voilà, je forme les jeunes de la FASEC. Et oui, ça me plaît beaucoup. Sincèrement, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment un plaisir de les voir évoluer et puis de voir dans leurs yeux, comme ça, quand ils ont les yeux qui pétillent parce qu'ils sont émerveillés d'un premier travail où on va un petit peu plus vite ou de, voilà, des premières sensations, des choses comme ça, ou des courses écoles. Non, c'est vraiment chouette. Ça me plaît beaucoup.
Bah écoutez, on vous souhaite la même réussite, mais enfin, ça va plutôt bien quand même. Tout ce que vous avez touché, généralement, ça a fonctionné à merveille.
Bah j'espère, il faut que ça continue.
Non, mais ça c'est quand même assez admirable. Et voilà, notre cavalière du siècle à nous, elle est là.
C'est gentil, merci.